Shalom, assalam alaikum, vous êtes les bienvenus, nous sommes tous les bienvenus au Club de la Presse que nous co-animons ce mardi 19 décembre 2023. Nous sommes 5 au studio, 4 confrères invités en plus de moi, mais vous êtes des centaines de milliers, voire des millions de par le monde et vous êtes branchés sur cette émission par le bien de Canal FM à Lomé, ses environs ici, mais Radio Lumière à Aného, Radio La Paix, La Voix des Plateaux à Takpamé, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio Sama FM à Baganiamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Courtoisie à Dapan pour dire que la chaîne de solidarité, c'est très bon. C'est ainsi que nous couvrons tout le territoire du Togo. C'est pas fini. Nous sommes également audibles en Afrique, en Europe, dans les Amériques, en Asie, un peu partout sur la terre grâce aux médias numériques, Eben Radio, Radio Le Bénin ou encore l'application Canal FM ou encore la chaîne YouTube. À la technique était Kossi Thomas Datevi, également Jérôme Kodjo Akucha, plus un intrus que je m'abstiens de citer. Vous le connaissez, c'est l'autre Michel. Eh bien, de quoi parlons-nous aujourd'hui? C'est mardi, nous avons une abondante page de culture, art et tradition. Et nous allons également, sur les traces du Conseil des ministres tenu hier, comment les pièces du puzzle se mettent en place pour les élections régionales et législatives. Et puis également en matière de santé, avec l'Union, nous revenons sur l'assurance maladie universelle. Avec aujourd'hui le panier de soins que propose l'assurance maladie universelle qui ne couvre pas tout. Nous allons en parler avec le directeur du journal L'Union et également cette prouesse que notre pays a réalisée d'éradiquer 4 maladies tropicales négligées dont nous parlions quand nous étions à l'école primaire et au collège. Notre pays a pu éradiquer ces maladies. Nous allons en parler avec Savoir News qui a fait un papier là-dessus. Juste que nous découvrions ensemble la pensée du jour. Et nous l'avons tirée du livre « Le pain et le vin » de Silon qui dit ceci. « Le gouvernement a un bras long et un bras court. Le bras long sert à prendre et il arrive partout. » Le bras court sert à donner, mais il arrive seulement à ceux qui sont tout près. Encore une fois, le gouvernement a un bras long et un bras court. Le bras long sert à prendre et il arrive partout. Le bras court sert à donner, mais il arrive seulement à ceux qui sont tout près. Ambroisine Memede Fifame, bonjour.
Bonjour Sas, bonjour chers confrères, vous qui nous écoutez, je vous salue avec beaucoup de joie, beaucoup de chaleur, passez tant dans mon temps.
Merci Ambroisine, c'est Savoir News avec en face d'elle Isidore Sassou Atialo Akolo du journal Actu Express paru aujourd'hui. Mais bonjour Isidore.
Bonjour Sas, bonjour confrères ici présents, bonjour à toutes et à tous.
Et à la droite de Isidore, à ma gauche à moi, c'est Sam Anas Djobot-Tereou du journal L'Éveil de la Nation. Bonjour Anas.
Bonjour Sas, bonjour aux confrères studio, bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices de la nouvelle génération.
Et le quatrième, c'est Eric Hugues Pakoudjo Johnson du journal L'Union. Bonjour Pakoudjo.
Bonjour Sas, bonjour chers collègues, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM. Sas, si tu permets, je suis très en colère contre la TDE, la Togolaise des eaux, qui franchement, au lieu de servir les citoyens, je pense qu'il y a certains qui se servent seulement eux-mêmes. Et c'est très malheureux pour les citoyens que nous sommes. Voilà un monsieur qui a loué quelque part et qui a été l'objet d'une coupure de compteur pendant au moins 6 mois. Alors le monsieur est allé, on lui a dit qu'il doit à la T2, mais c'est parce que le monsieur il n'a pas de service. l'eau ne coule pas dans son robinet pendant des mois. Néanmoins, il a payé toutes ses factures, en plus des frais de coupure, depuis 2022. Et donc, pendant toute l'année, il n'a pas eu d'eau. On n'a pas remis son compteur à jour pour qu'il puisse bénéficier des services de la TDE. Il y a quelques jours, une équipe de la TDE débarque dans la maison et l'objet, c'est d'enlever le compteur. Le monsieur dit, mais pourquoi vous enlevez? Ils disent, non, qu'il y a des factures impayées. Comment il y a des factures impayées? Alors que je vous ai payé, je suis venu réclamer 2 à 3 fois pour que vous me remettiez le service. Ce n'est pas fait et aujourd'hui, vous venez enlever le compteur. Et là, ça a été des tractations et l'agent lui dit, écoute, c'est un ordre d'enlever le compteur, donc nous, c'est ce qu'on va faire. Et le monsieur leur demande, il n'y a pas eu d'ordre de rétablissement du service? Et là, après, il y a un des agents qui dit à son supérieur, voilà, le monsieur n'a pas eu d'eau, il a payé, et on demande maintenant d'apporter les preuves. Et les preuves, nous on est allé chercher les preuves, on a eu les preuves. Et là, le monsieur a tout payé. Pendant toute une année, il n'a pas eu d'eau et on dit qu'il a encore des impayés. Ça veut dire qu'il y a encore des factures qui arrivent sans que le monsieur ne sache et qu'il n'y a pas de service. Alors, comment on explique cela?
C'est vrai que ce vieux constaté en forme de plainte ne vient que rejoindre toute une litanie, toute une pile des plaintes que les citoyens formulent un peu partout contre la Togolaise des eaux, une société qui demeure toujours sourde. Peut-être que le général Yark Yamehan devra prendre ce problème à bras le corps, secouer un peu le cocotier de la TDE pour que nous retrouvions de l'eau dans nos robinets et que la société respecte un peu plus quand même ses abonnés, sans qui il n'y aurait ni directeur général, ni même planton, ni tout le personnel.
On doit élargir ça à d'autres services comme la CET. Vous payez votre facture à terme échu et par moment on vient vous couper.
Parce qu'il n'y a pas eu de coordination.
Ouais, il y a vraiment des problèmes avec ces sociétés dont l'existence c'est de nous rendre service. Bon, nous les abonnés qui payons, nous ne sommes jamais, sinon rarement, satisfaits de leurs prestations. Mais c'est un peu comme le bras du gouvernement. Hein. Celui qui sert à prendre, il est long, il arrive partout. Mais le bras qui va servir à donner, il n'arrive même pas pour nous fournir de l'eau et autres
prestations. Je pense que ce qui se passe avec la T2, c'est pas comparable à la pensée du jour. Parce que la pensée du jour, moi, ce que j'ai compris, ça veut dire que le gouvernement a un bras long pour aller checker dans ce qu'il peut trouver. Mais quand il prend, le besoin est tellement énorme qu'il n'arrive pas à rétribuer tout ce qu'il a pris. Maintenant, au niveau de la TDE, de la CET dont on parle, c'est des sociétés qui sont censées être organisées. Mais comment on peut couper l'eau à quelqu'un pendant un an? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas un personnel, il y a des relances, on n'est pas venu rétablir, mais entre-temps, ils se rendent compte que pendant la période de coupure-là, le monsieur a encore utilisé l'eau. Et donc, ça veut dire qu'il y a encore des factures qui sont sur la table. Il n'a pas utilisé, mais ils ont émis des factures.
Oui.
C'est pourquoi on lui parle d'impayé.
En disant qu'il y a l'entretien.
L'entretien.
Donc, je pense que c'est
très sérieux. Et au même moment, on demande aux gens de régulariser les forages et tout. Ça veut dire que ce cas de figure-là donne beaucoup plus raison à ceux qui se lancent dans la construction des forages.
Au niveau même de la pensée du jour, je me dis que c'est un courant qui rejette pratiquement Machiavel. Parce que quand vous prenez Rousseau, la gestion de la nation n'est pas comme ça. Donc peut-être c'est les machiavélistes qui adoptent cette posture de prendre chez les pauvres et de s'en emmagasiner, donner seulement à ceux qui sont.
On n'a même pas parlé de pauvres ni de riches dans la cité.
Mais écoutez, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui.
Il a réfléchi. Il a mis ça dans un contexte philosophique.
Oui, ce qui se passe aujourd'hui même, vous voyez, y compris même les mairies.
Qui fonctionne. S'il te plaît.
Laissons la pensée circuler. Chacun va continuer à réfléchir là-dessus. Et nous, revenons au menu que nous avons annoncé. Et nous ouvrons par la culture. Et la culture commence déjà par celle que nous avons perdue dans la douleur il y a 50 ans et que nous avons honorée. Que nous continuerons d'ailleurs, que nous continuons et continuerons à honorer. À chaque fois que nous nous souvenons de lui, elle, c'est Bella Bello, à la manchette de Nouvelle Opinion parue hier avec ce titre. 50 ans après sa disparition, le Togo célèbre Bella Bello. Et aujourd'hui, c'est
Actu Express
qui lui dédie un numéro spécial intitulé « Hommage à la diva ». Tatakpamé Alomé, la belle histoire de Bella Bello qui s'est brutalement et tragiquement arrêtée à l'hélicoptère. Et aujourd'hui, dans sa parution, Actu Express nous parle des circonstances de cette mort tragique, comment la diva a été inhumée. Retour également sur sa carrière musicale, sa biographie. Trois points de suspension. Isidore ?
Oui, nos larmes ne cesseront jamais de sécher. Quand il s'agit de Nafiatou Bello, la diva qui a marqué son passage, ne serait-ce qu'une courte durée de 10 ans, mais sa mémoire reste toujours gravée dans nos subconsciences. Et aujourd'hui, on pense que bon, il va falloir lui rendre hommage. Le peu qu'on sache d'elle, c'est un condensé de sa vie, de son existence sur Terre, sa carrière et sa biographie et les circonstances de sa mort qui, jusqu'à présent, n'a jamais été élucidée.
Est-ce qu'il n'y avait pas eu, est-ce que la police, la gendarmerie ne s'est pas transportée sur les lieux pour...
On a fait le constat,
oui.
Mais on n'a pas établi les responsabilités jusqu'à présent. Les responsables n'ont jamais été...
C'était un accident de circulation.
Oui. On dit mais que c'est une vache noire qui a traversé la voie et il y a eu accident.
Oui.
Et la vache a disparu sur le champ. Et parfois même, je me souviens, quand on était tout petit à l'époque, on avait soupçonné une dame qui est aussi une chanteuse à qui on a voulu démolir sa maison. Eût été l'intervention des forces de sécurité et l'abnégation de général Yadema qui l'a exfiltré. Voilà la situation que nous vivons jusqu'à présent. Bon, personne ne sait de quoi. Qu'est-ce qui a provoqué sa mort et
son accident.
Et que parmi les trois à bord du véhicule, que ce soit elle seule qui pouvait en mourir. Et le 1er janvier, ce serait sa date anniversaire. Elle est née le 1er janvier et elle est décédée un 10 décembre. Et pratiquement dans la même ville. Elle est née à Thévier. Elle est décédée à Lilikopé.
Eh bien, peut-être que pas le rationnel l'irrationnel, nous ou ceux qui viendront après nous pourraient peut-être connaître les circonstances dans lesquelles Bella Bello nous a quittés. Mais revenons donc aux hommages pour rappeler sa disparition. Toute la semaine, les choses ont été faites avec ce dîner. On aurait parlé de dîner de gala, mais disons plutôt dîner mémoire, dîner hommage.
Dîner funeste.
Présidé par Madame la Première Ministre, c'était, je crois, le samedi dernier, Sam Diobo.
Oui, le dîner de gala, ou si vous voulez l'appeler dîner funeste. Dommage, bon, tout ce que vous voulez. C'était l'événement qui a couronné les jours d'hommage qui ont été dédiés à Bella Bello. Et donc, c'est un cocktail d'événements organisé par le ministère du Tourisme et de la Culture pour redonner vie ou pour rehausser l'image de cette dame qui a tout donné pour la culture togolaise. Et il faut rappeler que Bella Bello, en son temps, faisait partie des rares artistes africains qui pouvaient porter haut le flambeau du continent. Jusqu'à ce jour, elle a des chansons qui traversent le temps, mais qui sont toujours d'actualité. Des chansons beaucoup plus reprises, même par des artistes d'ailleurs. Je veux parler de Angélique Kidjo, qui reprend même certaines chansons de Bella Bello, qui sont des chansons qui demeurent pour moi d'actualité. Mais au-delà des cérémonies d'hommage qu'on rend à cette dame, il faut rappeler aussi que cette dame avait été déjà valorisée. Je me rappelle de ces billets de banque qui portaient encore la photo de Bella Bello.
Jimmy
qui portait la photo de Bella Bello. Des timbres postaux qui portaient la photo de Bella Bello. Tout ça là, c'était des hommages que le Togo a toujours rendu à cette dame. Mais cela n'est pas assez. Nous pensons qu'on peut ériger un monument pour cette dame-là dans un grand carrefour de la capitale togolaise. Un monument au rang de la diva pour rappeler aux générations antérieures, à présentes et futures, ce que cette dame-là a été. Au même moment aussi, profiter pour demander au gouvernement ou à toute la nation d'identifier ces stars-là, ces Togolais, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour vendre l'image du Togo à l'international. Je veux parler de Adebayo Chehi, pour commencer par leur rendre hommage pendant qu'ils sont encore vivants. Parce qu'on a l'habitude, nous, Africains, de rendre hommage aux gens que lorsqu'ils sont déjà décédés. Donc, on peut trouver un moyen pour rendre hommage à ceux qui portent haut le flambeau de la nation, déjà pendant qu'ils sont encore vivants, on peut le faire.
D'autant plus que nous avons d'anciennes gloires, aussi bien de la musique, du football, théâtre, hein, des sports, qui ne savent même pas aujourd'hui où dormir, quoi manger, comment se traiter. Quand les maladies les visitent, vivement que une réelle volonté au sommet de l'État, naturellement, mais également au sein de nos familles et des amis. Hein, nous qui avons connu celles et ceux-là, hein, nous pouvons quand même, nous sommes invités à leur porter notre solidarité de leur vivant. Et au club de la presse, nous ne parlons pas seulement des artistes disparus comme Bella Bello, nous parlons également de celles et ceux qui sont et qui sont en l'œuvre, n'est-ce pas, Eric Johnson, puisque c'est ce que ton journal fait aujourd'hui en nous parlant d'un groupe spécialisé dans les nuits de Lomé. Il s'appelle le groupe Nounana. C'est le groupe artistique l'un des plus talentueux, ayant pour ambition de marquer l'échiquier artistique togolais dans les prochaines années. Ils sont 8, aussi bien des instrumentalistes que des chanteurs. Eric?
Oui, justement. Et c'est un groupe qui reprend également beaucoup de chansons de Bella Bello au cours de ses concerts nocturnes. Et c'est un groupe de jeunes. Et ma foi, ce groupe-là veut quand même valoriser la culture togolaise. Aujourd'hui, ils sont encore à interpréter des chansons d'ici et d'ailleurs, mais et surtout, ils pensent aujourd'hui qu'il faut s'asseoir uniquement sur la culture togolaise avec des sonorités comme Agbaja, Kamou, comment vous l'appelez,
Gazo
et tout le reste. Donc, c'est une manière pour eux de perpétuer la culture togolaise à travers la musique. Et je crois qu'ils disent qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Ils pourront aller ailleurs, sous d'autres cieux, pour montrer ce que c'est que la culture togolaise.
Et ils veulent donc aller sur les traces de leurs aînés comme Peter Solo, King Mensah, Dama Damaouzan et autres, mais ajouter leur touche personnelle à l'œuvre de ses aînés, mais ils sont également très bons en interprétant les chansons d'autres, notamment le jazz, le blues, la salsa et les variétés d'ici et d'ailleurs. Eh bien, ils s'appellent Nounana, c'est 8
instrumentalistes et chanteurs. Ouais.
Sans transition, nous continuons avec la tradition. Ambroisine, rebonjour.
Rebonjour, Sass.
Eh bien, c'est avec toi que nous allons vivre le retour du Festival des Divinités Noires que nous avions perdu entre-temps et que ne cessait jamais d'évoquer Isidore Akolo.
Oui, mais justement,
avant les mémoires de
vraiment content de savoir que le festival signe son retour avec cette 9e édition qui se tiendra du 12 au 14 à Anéhoï. Du 12 au 14 janvier.
Janvier 2024.
24, oui, l'année prochaine donc. Événement qui promeut le patrimoine culturel africain et dans toute sa dimension, institué depuis 2006. Ce festival donc fera suite aux Vodou Days qui se tiendront les 9 et 10 janvier au Bénin. Et donc juste après, je pense qu'on va se retrouver à Nehor et à Glidji avec les sociétés initiatiques du Nord et du Sud. Alors, Douin.
Non, justement, avant que le doyen ne prenne la parole, donc le Festival des Divinités Noires, faut-il encore le rappeler à Isidore, c'est l'idée de l'association Akofin. Entre-temps, depuis 2006, il y a eu une panne, mais le véhicule va repartir et espérons que ce sera reparti pour de bon.
Non, moi, j'ai toujours eu des problèmes avec mon grand frère, le concept même. J'arrive pas à définir les contours. Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est culturel? Il y a tout un amalgame autour de la chose. Yusson Barou voulait en faire un truc culturel. Et la toute dernière édition, c'était avec les Brésiliens. Et où tout a capoté. Puisque il y a des reines mères qui sont venues. Et n'ont rien senti comme mystique ou autour de la chose.
Mais je crois que c'est un festival qui se veut populaire.
Non.
N'est-ce pas?
Non. Le concept n'était pas ça. Quand on avait commencé, et derrière, avec le blanc là, j'oublie son nom, la première édition, au niveau de Total, derrière votre structure là.
La Total. La Total. Où
oui.
Ça?
Non, derrière, ça met comme. Ça met comme là. Oui. C'est là-bas où on avait commencé.
À Noukafou.
Mais pour lui, il faut aller dans les couvents, ressortir les rituels. Et je me souviens, la dernière édition qu'on avait eu à faire à Anéhor, on a vu les. Les Kélégbétos. Qui ont traversé la lagune de bout en bout.
Donc, tu souhaites qu'on retourne à l'idée originale et originelle, c'est ça?
Est-ce que c'est possible?
Oh, mais
c'est ça le marketing.
Justement, je pense que maintenant, il veut faire quelque chose de
culturel,
et également qui soit ouvert sur le grand monde.
Mais quand on voit le titre même, Festival des Divinités Noires, Ça rejoint ce que dit.
Oui, oui. Et à Akofin, c'est le corps,
Ok. Comme, nous irons vivre.
C'est des choses hautement spirituelles.
Oui, ok. Nous irons vivre l'édition de janvier 2024, mais dans un dossier de presse que l'association Akofin même fait diffuser. On apprend que les sociétés initiatiques du Nord, comme les Kondona, du pays Kabier, les Sola, dans la Binan, les danseurs du feu, Tibol,
de même que
les jeunes filles vierges du pays Bassa, il y aura également les jeunes filles vierges, les Adifossi, il y aura également les Zangbeto, il y aura également les Kété.
Est-ce qu'il y a les Zangbeto ou les Klegbeto?
Les deux
divinités.
Les Zangbeto et les Klegbeto.
Bon, les Zangbeto, c'est pour la nuit.
Oui, les Klegbeto, c'est pour le jour.
Et bien, nous irons à l'ouverture de ce festival-là et nous constaterons si c'est culturel ou bien culturel.
Permettez-moi de revenir sur Bella Bello. Je voudrais dire un mot. C'est vrai, Bella Bello a eu une carrière exceptionnelle, quoi que coûte. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour pérenniser cet héritage-là que nous a laissé notre diva? Je pense qu'on pourrait déjà commencer par faire connaître les paroles de cette dame, ce les qu'elle chante, de ses chansons, ce qu'elle chante, les thématiques qu'elle aborde, ce qu'on peut en tirer aujourd'hui. Pourquoi ne pas chercher des Bella Bello dans les voix que nous avons aujourd'hui? On pourrait, par exemple, organiser ce qu'on appelle au Bénin des choras ou des sortes de...
Qui n'existent plus. Hein?
Qui n'existent plus. Qui reviennent en force. C'est, hein?
C'est le Bénin.
Qui reviennent.
Par contre, c'est l'Afrique du Sud.
Mais en fait, c'est un Béninois qui...
C'était l'initiative de l'autre là.
Chercher tout simplement la voix Bella Bello, s'il y en a encore, et promouvoir ces voix-là. On pourrait organiser ce genre d'initiatives sur toute l'étendue du territoire, faire des compétitions qui pourraient interpréter les initiatives a cappella qu'on fait un peu partout. Ici, je pense qu'on le fait également ici. On peut mettre imposer quelques chansons de Bella Bello pour que les gens puissent s'imprégner de ce qu'elle dit, de ce qu'elle chante, pour que sa voix reste malgré tout, pour que ses paroles travaillent, nous travaillent, et sa philosophie soit ancrée dans la jeunesse.
On avait une chanteuse. Une parenthèse, mais quand même. Quelques secondes. On ne peut pas oublier Fifi Rafiatou.
Oui, tu as déjà parlé de Fifi il y a une semaine. Eh bien, continuons plutôt avec Akofin, les divinités noires. Hein, et puis, cet autre article également de l'Union, qui est vraiment religion, enfin, entre religion et art, il s'agit de ce colloque qui nous amène sur les traces du vaudou, lui-même, les traces du vaudou dans les sociétés post-esclavage. Ce sera en août 2024. Eric?
Oui, je ne sais pas si vous connaissez le professeur Maounon Kakbo.
Nous avons parlé de lui, je crois, deux ou trois reprises.
Voilà, c'est un éminent professeur béninois qui a ouvert, c'était il y a deux semaines à l'université de Lomé, le CODIREL. Et donc, ce colloque-là qui a parlé du Fa. Il a exposé le Fa, il a expliqué le côté scientifique du Fa. Et donc, c'est ce même professeur avec ses organisations et également l'Université de Lomé qui vont organiser ce colloque-là à Cotonou en prélude au Festival international des arts, culture et spiritualité vaudou de Porte-Novo. Et donc, c'est en prélude à cela qu'il y aura ce colloque pour expliquer ce que c'est que le vaudou. Ils vont répondre essentiellement aux différentes questions, comme qu'est-ce que c'est que le vaudou?
Le vaudou lui-même.
Et quel est l'impact du vaudou dans nos sociétés? Au-delà de, comme il aime bien le dire, Isidore, le côté culturel du vaudou et maintenant le côté culturel également du vaudou. C'est à toutes ces questions-là que ce colloque va essayer d'expliquer. On a des professeurs comme Kanya Alem Diolo et d'autres qui sont également invités à ce colloque qui se tiendra du 2, 3, 4 août 2024 à Cotonou.
À Cotonou. Alors, qu'est-ce que le vaudou? D'où viennent les vaudous? Comment les vaudous se manifestent-ils? Et comment les vaudous impactent-ils le vécu sociopolitique et économique aussi bien des vaudous-ci, les adeptes, que du commun des mortels? Ce sera donc à ce colloque début août à Cotonou pour dire que l'agenda sera très riche. Hein. En janvier 2024, il y aura le festival Divinité Noire. Après,
il y aura les Vaudou Days avant.
Il y a les Vaudou Days avant.
Les Vaudou Days de 9 au 10, c'était avant
Divinité Noire. C'est dans la première quinzaine du mois de janvier.
Oui. Aujourd'hui, c'est deux jours pour célébrer ou magnifier ou c'est pas le Vaudou.
Ce sera au Bénin.
Les Vaudou Days, c'est naturellement, ce que nous faisons, nous appelons fête des divinités noires, des richesses endogènes, célébrer la fête du vaudou, comme on m'a appelé, et que nous célébrons le 10 janvier au Bénin, qui est transformée aujourd'hui en Vaudou Days. Et donc, ce n'est plus une journée, mais plutôt deux jours, du 9 au 10,
pour célébrer le Vendôme. Toujours début janvier, après nous faisons à Koffin.
On revient à Koliti
pour à Cotonou, et après pour le colloque sur les traces du Vendôme.
C'est toujours à Vida.
Les amateurs savent déjà comment meubler leur agenda.
C'est toujours à Vida.
Oui, le Vendôme Day, c'est à Ouida. Okay. C'est la ville même historique du Vendôme.
Merci, nous sommes bien servis. Nous avons honoré la mémoire de Bella Bello avec nos souhaits pour immortaliser davantage sa mémoire et son œuvre. Et puis, nous avons fait revivre nos ancêtres.
Ça, j'allais oublier. Oui. Je suivais un documentaire, je crois, il y a deux jours. Sur une chaîne internationale où feu Manu Dibango a rendu un hommage à Bella Bello au cours d'un concert en Angleterre. Oui. Mais c'était vraiment touchant, c'est très édifiant par rapport à ce que Bella Bello a été pour, aussi bien pour nous que sur le plan international, et pour des artistes comme Manu Dibango.
Une icône véritablement à préserver, mais également faire en sorte que d'autres Bella Bello émergent. Dans notre société, on a parlé par exemple des places à ériger en son nom, des monuments, statues. Mais les artistes purs souhaiteraient également que le Togo, l'officiel ou les bonnes volontés, mettent en place un conservatoire pour l'émergence des talents qui pourraient égaler, pourquoi pas dépasser toute la hauteur de Bella Bello.
Je pense que si nous le faisons bien, les Africains, les musiciens d'ici et d'ailleurs viendront épuiser pour enrichir leur production. Sous d'autres cieux, vous savez, on élève des personnes comme Bella Bello à un niveau où vous avez l'impression que ces personnes-là sont insaisissables. On les magnifie tellement et on va rechercher la muse qui les inspire.
Mm-hmm. Vous voyez? Mm-hmm. Donc, nous disons souvent ici que les plus grands ambassadeurs de tous les pays qui traversent le temps, que les politiques nous en excusent, mais c'est pas eux. Les plus grands ambassadeurs de tous les pays, c'est les créateurs d'esprit. C'est les écrivains, c'est les philosophes, c'est les chanteurs. Maintenant, modernité, c'est le cinéma, c'est le théâtre, c'est les sports. Notre compatriote Agbenyonou, aujourd'hui, qui devient une icône de son vivant en France.
Judo.
Les David Douillet, tous les champions de tennis. Quand je vous cite Roger Federer, il est connu beaucoup plus que le président de la Suisse même.
Oui,
quand je dis Novak Djokovic, quand je dis Raphaël Nadal, je dis Lionel Messi et Ronaldo.
Félix Auger-Aliassime.
Ah. Et il faut pas attendre.
Qui
immortalise vraiment nos pays.
Et il faut pas attendre leur décès, ce que nous appelons hommage à titre posthume. Il faut en faire aussi à titre costume de leur vivant. Et comment je pense aussi à Jimmy Hope, c'est quelqu'un aussi à travers sa voix, qu'à travers sa plume, son art, ses œuvres. Et quand vous passez
au Carrefour Colombes.
Voilà, donc ce sont des personnes
qu'il faut magnifier.
Toutes proportions gardées, les journalistes également participent à cette œuvre-là d'édification du Togo. C'est pourquoi je vous immortalise de votre vivant, vous qui défilez à ce plateau. Je sais ce que ça vous coûte, tous les coups que vous recevez pour une opinion que vous émettez, pour un commentaire que vous faites ici et là, et qui vous valent des attaques, mais vous ne vous découragez jamais, vous êtes toujours fidèle au rendez-vous. Je vous en félicite parce que vous répondrez toujours.
Tu permets?
Oui, Isidore.
Il vient de dire quelque chose, qu'il a vu Manu Dibango rendre hommage à Bella Bello. Ça devait être lors de la tournée qu'elle devait faire avec Manu Dibango en 72. Et elle était décédée. C'était une tournée internationale. Et je pense que c'est dans ce cadre que Manu était obligé de rendre hommage à Bella Bello. Quand Bella Bello était décédée, c'est à Kofakusa qui avait commencé la tournée avec Manu Dibango. Et plus tard, Manu Diango a été rejoint par Bébé Maïga, Amio.
Merci. Isidore, la dernière fois, je te disais en privé, il faut que tu écrives. Tu parles pour nous parler, pour évoquer le passé.
Un livre.
Mais ce sont des paroles qui s'envolent. Hein? Il faudra que tu écrives pour immortaliser ce que tu retiens de ta mémoire. Maintenant, souffrez que nous allions à l'actualité avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier et dont on peut dire que véritablement les pièces du puzzle des élections régionales et législatives se mettent progressivement en place. Sam Diabo, au Conseil des ministres hier, nous retenons que le gouvernement a écouté une communication sur la 12e séance du comité permanent de concertation. Ensuite, ils ont écouté une deuxième communication sur le chronogramme des activités que sûrement la Commission électorale nationale indépendante CENI a communiqué au gouvernement. Le gouvernement a également adopté le projet de loi portant modification du cadre du code électoral, mais et aussi et surtout le projet de loi organique fixant le nombre des députés, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et pourvoi au siège vacant, pour dire que le gouvernement hier a pratiquement validé les conclusions du CPC en sa 12e séance tenue le 13 décembre dernier, lequel CPC est censé même se retrouver aujourd'hui.
Non, moi je pense que le Conseil des ministres d'hier était un conseil essentiellement dédié aux élections qui vont se tenir au plus tard le premier trimestre du mois de l'année 2024. Parce que beaucoup, tous les points, sauf celui de concernant la loi cadre sur l'environnement, tous les autres points concernent les élections. Mm-hmm. Et il faut rappeler aussi que le CPC, c'est un organe mis sur pied par le gouvernement qui regroupe tous les acteurs politiques et même certaines organisations de la société civile où on discute des conditions, organisation des élections, comment faire pour que le climat politique soit beaucoup plus apaisé. Et à la 12e session, ils ont suffisamment évoqué la question des élections. Mm-hmm. Et rappelons aussi qu'il y a certains partis politiques qui ont lancé le débat sur le découpage électoral, le nombre de députés que comporte peut-être le Grand Lomé et par rapport à la région des plateaux, les régions de l'intérieur du pays. Et je pense que toutes ces questions-là ont été versées au Conseil des ministres qui en a pris conscience et qui a examiné, adopté des projets de loi en lien avec ce qui a été décidé au niveau du CPC. Moi, je pense que c'est de bonne guerre parce que les acteurs politiques, ils sont obligés d'accorder leur violon avant qu'on aille aux élections. Donc, à 3 mois des élections, s'ils peuvent trouver un modus vivendi ou pour ils peuvent parler d'une seule voix, en ce qui concerne surtout le découpage électoral, le nombre de députés, pour que au sortir des élections, il n'y ait pas de contestation. Moi, je pense que c'est ce que le peuple demande. Et dans les coulisses, on parle de 117 députés à venir au lieu de 91. Je suis sûr que ça doit être arrimé au nombre de communes que nous avons. Et donc, si c'est le pas à franchir pour que tous les acteurs ou tous les partis politiques s'entendent pour que les élections aient lieu, moi, je pense que c'est une bonne chose.
Merci, Sam. Eh bien, au point 24 du communiqué ayant sanctionné le Conseil des ministres hier, je lis, le Conseil des ministres a pris acte du bon déroulement des travaux du cadre permanent de concertation et a salué le consensus obtenu sur les différents sujets évoqués. Alors, Isidore, tu te rappelles que au cours de leur séance du 13 décembre dernier, les acteurs du CPC avaient beaucoup débattu du découpage électoral avec des propositions que chaque commune devienne le siège d'un député, ce qui porterait le nombre de députés à 117 au moins. Et puis ils ont également souhaité la révision de certaines institutions qui interviennent dans les élections. Alors quand le gouvernement salue le consensus dégagé au CPC, ça veut dire que le gouvernement prend sur lui ces points évoqués et retenus par les acteurs au CPC.
Vivement que le gouvernement puisse poser des axes pour que la paix sociale soit préservée. Et quand vous prenez le découpage aujourd'hui, ce qui se dit, c'est peut-être, je dis que c'est un pas en avant, c'est pas encore la solution, puisque les communes n'ont pas le même poids. Donc, quel est le coefficient de répartition? Mais c'est un petit pas en avant. C'est un petit pas en avant à saluer. Moi, l'intrigue, c'est le fichier électoral. Aujourd'hui, que moi, je trouve obsolète.
Fichier que l'EIF a trouvé suffisamment viable.
Non, mais c'est obsolète. On n'a pas besoin de faire... d'être un expert pour s'en rendre compte. Le fichier a été arrêté depuis juin 2023 jusqu'à la tenue des élections. Donc aucun Togolais n'a plus le droit de voter. C'est ça la grave question.
Surtout quand nous débordons dans l'année 2024.
2024. Alors qu'on sait que le recensement avait été fait à l'arche et beaucoup de citoyens sont laissés sur le carreau et qui ont perdu leur droit de vote. Voilà quelques aspects de la chose. Il faut aller au-delà et pouvoir trouver un consensus pour que les élections ne créent pas.
Merci Eric. Même s'ils n'ont pas encore les détails du consensus qui s'est dégagé au sein du CPC que le gouvernement semble vider, on n'a pas les détails. Et non plus sur le chronogramme que la CENI a soumis et que le gouvernement dont le gouvernement a débattu hier, mais si je lis le point 26 du communiqué, il dit ceci: faisant suite aux instructions du président de la République pour la tenue des élections législatives et régionales avant la fin du premier trimestre 2024, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires a rendu compte au Conseil des ministres de proposition de la Commission électronationale indépendante pour l'organisation d'une consultation couplée. Donc, maintenant, c'est dit, nous aurons les législatives et
les régionales
en même temps. Ouais. Et le point 27, il dit, le chef de l'État a instruit le gouvernement d'examiner cette proposition en vue de la prise du décret convoquant le corps électoral pour la poursuite régulière du processus électoral. Alors, quand nous aurons les détails du chronogramme, alors les choses risquent vraiment de s'accélérer dans les tout prochains jours.
Oui, on parle du corps électoral. Avec quel fichier?
Oui, Eric?
Oui, je pense que cette idée-là a été déjà avancée par plusieurs acteurs politiques en se disant que le pays n'a pas assez de moyens pour organiser autant d'élections sur une courte période. C'est-à-dire que organiser les législatives et ensuite les régionales et bientôt également il y aura les communales
et
la présidentielle. Et donc cette idée-là germait depuis. Je pense que aujourd'hui, avec cette proposition-là, et si c'est sorti de ce conseil des ministres-là, c'est que, évidemment, il y a un souci qu'il faut régler. Et Isidore parlait du fichier électoral. Si on doit encore refaire le recensement électoral,
ou la révision,
Il
faut réviser ce fichier-là.
Du fichier électoral, je pense que le temps fera un peu défaut. On ne sera plus dans le temps souhaité par l'autorité. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on va peut-être aller vers la fin du deuxième trimestre ou bien carrément du premier semestre. Et pourquoi pas penser même aller au-delà. Et je dis le fichier électoral. Le consensus que les acteurs politiques qui sont au CPC peuvent trouver, mon avis, c'est qu'ils acceptent tous que ceux qui sont en âge de voter, qu'on leur permette de pouvoir voter avec des justificatifs. Ah oui, cela est possible.
Mais c'est la porte ouverte aux fraudes.
Mais attends, et Isidore, finalement, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que ceux qui sont en âge de voter puissent voter.
Oui.
Si on n'a pas assez de temps pour faire une révision et du fichier électoral, alors il faut faire des propositions.
La proposition, pourquoi pas, mais en fait, je ne sais pas, hein.
Oui.
Peut-être que.
Oui, justement. Avec, justement.
Bien formulé, on comprendrait.
Mais ça ne répond à aucune logique.
Ceux qui ne sont pas dans le fichier électoral, sur quelle base ils viendront exhiber telle ou telle pièce pour être autorisés à voter?
Et justement, ça, si les acteurs politiques arrivent à trouver des consensus sur le cadre électoral, ils pourront également trouver un consensus. Je dis, c'est une idée qui est lancée à la volée. Il faut réfléchir là-dessus pour trouver le bon milieu pour que les gens, ceux qui sont en âge de voter aussi, puissent le faire.
Je rappelle que le CPC est censé se retrouver aujourd'hui, d'ici la fin de la journée. Nous
non, ça a été reporté selon mes informations.
Ok, alors Ambroisine, pour résumer, encore une fois, sous réserve, puisque nous n'avons pas les détails des conclusions de la 12e séance du CPC que le gouvernement salue, nous n'avons pas non plus les détails du chronogramme soumis par la CENI, sur la base duquel le gouvernement réitère que nous devrions aller aux élections au plus tard à la fin du premier trimestre, avec éventuellement l'augmentation du nombre des députés jusqu'à combien, je ne saurais l'avancer. Mais ce qui est une certitude, c'est que nous voterons au plus tard avant le 31 mars 2024 et ce sera des élections couplées.
Oui, c'est ce que se dégage de l'évolution des choses. Moi, je pense que avec cette proposition qui est déjà versée, le gouvernement a analysé et des projets de loi déjà
en gestation.
Je pense que c'est un pas. Et on peut se dire, en attendant les nouvelles propositions qui seront faites à l'issue de la rencontre de demain, si c'est toujours demain. Donc, on est sur une bonne lancée, hein, quelque part. Maintenant, en parlant de fichiers électoraux, moi, je pense que les gens n'ont pas vite réagi quand il fallait.
Quels gens?
Ceux qui ont participé, quand la commission chargée de travailler sur le fichier a été mise sur pied, je pense que s'il y avait eu des réactions à temps, on aurait pu corriger des choses. C'est ma façon de voir. Oui, mais dans cette commission-là, excusez-moi beaucoup, je n'ai peut-être pas la même compréhension des choses que vous, mais je pense que cette commission n'est pas allée dans un couvent. Et il y a eu des gens aussi bien de l'opposition que de la mouvance et même de la société civile. Je pense qu'il y a eu peut-être à mon niveau une certaine petite négligence à mon niveau, hein, à ma compréhension de la chose. Vous me direz, hein, si je vois bien les choses. Je pense que c'est depuis ce temps-là qu'on devrait réagir à ma compréhension de la chose. Maintenant, là, quelque part, je pense qu'il y a eu une sorte de concession qu'il a été convenu qu'on utilise ou bien qu'on reçoive les recommandations pour les prochaines fois et que ce fichier-là, qu'on aille aux élections avec ce fichier, si j'ai bien compris.
Ne perdons pas de vue ce qui s'était passé. On était dans la logique que les élections devaient se tenir au courant 2023. Et on a bousculé les gens à aller se faire recenser.
Tout à fait.
Et tout le monde attendait que les élections devaient suivre en même temps. Donc, et après, plus rien, aucune communication. Tout se passait comme, effectivement, on était dans un couvent. Et les gens ne sont pas informés.
Bon,
Jusqu'à ce qu'on nous apprenne.
Pour des raisons techniques dues à des défaillances de la CENI, de ces démembrements, les gens n'avaient pas pu se faire enrôler.
Tu permets que je termine jusqu'à ce qu'on nous apprenne que bon, l'UIF est venu valider le fichier qui est déjà obsolète, c'est tout.
Ok, et surtout, hein, comme dit Isidore, c'était un fichier, nous pensions tous voter en 2023. Maintenant que nous allons déborder en 2024, et les Togolais qui auront acquis la majorité de 18 ans à partir du 1er janvier, qu'est-ce qu'on fait de ceux-là?
Si on veut bien faire, si on veut bien faire, on trouve toujours une manière de le faire.
Merci. Je rappelle également une conclusion de CPC en s'asseyant du 13 décembre. Ils avaient souhaité un CPC beaucoup plus inclusif, avec éventuellement l'ouverture à des acteurs politiques qui n'y sont pas pour le moment. Attendons la prochaine séance. Et je dis, c'est reporté à demain. Nous verrons si le CPC a été ouvert ou bien si c'était...
Je passe sous vos contrôles. Il semblerait que le CPC, parmi les recommandations, ils ont parlé aussi du fichier.
Ils avaient évoqué.
Non, pour la 12e session.
Ils avaient évoqué le sujet, mais ils n'en ont pas débattu.
Ah, d'accord.
Attendons la prochaine séance pour en savoir ce qu'il en serait. Et maintenant, venons-en quand même à ce petit, à ce motif de satisfaction. Je me rappelle, quand j'étais à l'école primaire, on parlait des grandes endémies qui endeuillaient l'Afrique, dont le Togo, et il y avait des maladies comme la trypanosomiase, que nous n'arrivions pas à bien prononcer, mais que nous écrivions pour avoir de bonnes notes. Et puis en Brésil, Savoir News nous informe que le Togo a réussi à éradiquer 4 maladies tropicales négligées, dont la fameuse trypanosomiase.
Effectivement, il n'y a pas que la... Oui, 4 maladies tropicales négligées. Il y a l'éléphantiasis, et la maladie du sommeil et le trachome. Mm-hmm. Et bien sûr, le ver de Guinée, dont on parlait. C'est un exploit que les acteurs de l'OMS à divers niveaux ont salué. Le Togo a été félicité plus d'une fois. Et les acteurs ayant contribué à cet exploit ont été célébrés vendredi dernier. Eh bien, quelles sont ces maladies-là? Ce sont des maladies, c'est un groupe d'affections, d'une vingtaine d'affections, qui sont vraiment stigmatisantes. Qui défigure les personnes que ces affections-là, qui subissent ces affections. Ils sont plus d'un milliard dans le monde et 40% vivent en Afrique. Et dans les zones tropicales, ce sont des populations véritablement pauvres qui subissent ces affections-là et qui en ressortent complètement défigurés. Et ça empêche les enfants d'aller à l'école et les parents de vaquer à leur occupation, les rendant pauvres et prisonniers de cette pauvreté-là. Et ce sont des maladies stigmatisantes, et à ces maladies-là sont associées l'exclusion sociale. Et ça, c'est le fait d'éliminer ces maladies-là pour le Togo. C'est une façon de renforcer la résilience du système, de notre système sanitaire. Vous savez, la santé est un droit humain, et l'amélioration de la santé publique devrait être au cœur de nos actions. Aujourd'hui, quand on parle de ces maladies-là, il y a une autre qui vient de s'ajouter le 15 dernier par l'OMS, qui s'appelle le NORMA. Et il y a un article là-dessus pour savoir qu'est-ce que c'est. Et donc, nous avons un problème. C'est que la santé est pratiquement le parent pauvre de toutes les stratégies nationales dans la plupart des pays. Et alors que si nous focalisons sur la santé, nous allons mettre fin à cette exclusion sociale-là. Et aujourd'hui, nous parlons de santé, couverture sanitaire universelle. Je pense que c'est l'outil qu'il faut aujourd'hui, parce que en même temps, ça lutte pour le bien-être, la santé, le bien-être de la population. Ça lutte en même temps contre l'exclusion sociale, puisqu'il n'y aura personne de laisser sur le quai. Merci. Et aussi...
Quand la femme est lancée.
Sur cette question-là.
C'est quand même un petit motif de satisfaction.
Tout à fait.
Quand le Togo a éradiqué le ver de Guinée depuis 2011, la filariose lymphatique depuis 2017, nous étions à la matière le premier pays africain.
Oui.
Également la trypanosomiase humaine africaine, ou maladie du sommeil en 2020, et maintenant le trachome en 2022. Vivement que nous continuions avec sur cette lancée pour éradiquer progressivement toutes ces maladies encore qui nous créent des problèmes.
Isidore, ne dormons pas sur nos lauriers. parce que ces maladies aujourd'hui éradiquées peuvent plus tard nous rattraper, parce que la plupart viennent de l'épizootie. L'épizootie, c'est-à-dire que nous vivons avec les animaux et ce sont ces animaux qui nous transmettent ces maladies. Si nous continuons à ne pas à adopter de mauvais comportements, mais ces maladies vont nous rattraper plus tard.
Vigilance pour garder ce acquis, mais continuer toujours à éradiquer d'autres maladies. Sam Diogo?
Non, moi, quand on parle des maladies éradiquées par le Togo et beaucoup plus d'autres pays, moi, j'ai en mémoire encore les serpents qui tuent. Les gens qui en meurent des morsures de serpents dans notre pays. Et donc moi je pense qu'au-delà de ces maladies tropicales négligées, le combat aussi se situe au niveau de mettre à la disposition des centres de santé périphériques les vaccins ou les sérums anti-venimeux.
Merci. Et cela nous amène à l'assurance maladie universelle. Nous en parlions il y a une semaine quand l'Union nous parlait de ce qui va advenir à partir du 1er janvier. Aujourd'hui, Eric, ton journal nous entretient sur le panier de soins, hein, avec cette précision que l'assurance maladie universelle ne pourra pas tout couvrir.
Oui, évidemment. J'avais dit. Évidemment. Je crois que c'est une réponse aux interrogations de plusieurs de nos lecteurs. Ils ont dit oui, vous avez parlé de ce que ça va nous coûter, mais maintenant, qu'est-ce que nous aurons en retour comme soins? Et nous avons estimé quand même intéressant de leur proposer le panier de soins. C'est toute une liste, hein, et on peut se référer à ce que fait déjà l'INAM avec ses assurés. Mais ce qu'il faut savoir ici, déjà la première chose, c'est de savoir que quand vous, pour bénéficier de l'assurance maladie universelle, il faut déjà cotiser. Vous cotisez les trois premiers mois, vous ne bénéficiez pas de l'assurance maladie universelle. Ça veut dire qu'il faut une régularité dans la cotisation. Et donc, à partir du quatrième mois, vous allez bénéficier de l'assurance maladie universelle. Dans quelle proportion? Vous allez payer en tant que patient 20% directement si c'est dans un centre de santé public ou si c'est dans un centre de santé privé agréé. Là, il faut insister sur l'agrément qu'on donne à ces cliniques-là qui peuvent vous servir. Donc, vous payez directement 20% à ces centres de santé et les 80% sont pris en charge par la structure, c'est-à-dire soit c'est la Caisse nationale de sécurité sociale où vous êtes assuré ou c'est l'INAM. Ça dépend de votre vie professionnelle. Et donc, vous y allez. Il y a une catégorie de soins qui sont pris en charge par l'assurance maladie universelle. Et c'est là où il y a toute une liste. Et il y a d'autres qui ne sont pas pris en charge. Et à, par exemple, quand vous allez pour faire une chirurgie esthétique, c'est logique que vous ne soyez pas.
C'est pas une priorité.
C'est pas une priorité
pour la société.
Pour la société, c'est vraiment ça. Donc, vous-même, vous occupez de ça. Ça ne rentre pas dans les maladies prises en charge par l'assurance maladie universelle. Et là, encore, il faut bien expliquer aux assurés que les 10% que vous devrez payer, c'est retenu directement.
10 ou 20%
10%.
20% partagé entre le.
Non, et puis c'est donc, 10%.
Si tu parlais tantôt de 20% qu'on devrait payer.
Non.
Si.
Je parle de ce que vous cotisez mensuellement à l'assurance maladie universelle, la structure où vous êtes assuré. Vous comprenez? Donc, je parle de 10%. C'est 10% qu'on prenait, par exemple, sur les salaires. Ce n'est pas les 20%. Les 20%, c'est ce que vous payez quand vous êtes malade.
Ouais.
Quand on vous soigne.
Okay,
vous payez 20% de la facture.
Et la MUP prend 80%.
La MUP prend 80%. Ça, c'est bien différent. Donc, les 10%. que vous cotisez mensuellement, que vous, par exemple, je donnais l'exemple de la Côte d'Ivoire où on a demandé aux citoyens qui ne sont pas salariés de cotiser 1000 francs par mois. Et donc, vous cotisez déjà 3000 francs, déjà au quatrième mois, vous pourrez déjà commencer par bénéficier.
C'est un sujet technique. Merci à l'Union, à d'autres organes qui nous informent. Nous exhortons à lire ces publications, mieux encore, à rechercher la documentation appropriée pour savoir exactement ce qu'il en est. Mais nous attendons le gouvernement,
et à côté,
notamment le ministre, le ministère en charge de l'accès universel aux soins, et de
communiquer
avec la pédagogie vraiment pour
et à côté, de communiquer.
Il ne faut pas oublier aussi, à côté, il y a des produits qui sont pris en charge par l'AMI et d'autres non.
Il faut aille à l'information, la vraie. Merci à l'Union, merci aux journaux, mais il faut que le ministère.
Le ministre doit communiquer. Et d'abord, la question que je vais poser, quels sont les ayants droit de la sujétie?
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Parti, nous nous branchons sur vous le 22 21 33 74 le 91 36 63 75. Nous vous prions juste de vous en tenir au sujet que nous avons discuté aujourd'hui et le débat sera inclusif et nos limites. Premier auditeur en ligne, bonjour.
Allô?
Oui.
Bonjour.
Bonjour Didier.
Bonjour Eric, bonjour.
Bonjour Didier, tu vas bien?
Voilà, ça va très bien. Ça va, un bonjour depuis le foie. Mm-hmm. Et bonjour Madame Ambrosine, bonjour à Sam Djabo.
Bonjour.
Oui, Sam Djabo, vous avez dit tout ce qui m'a tiqué, vous avez dit tout à l'heure que le bras du gouvernement est court parce que les besoins sont énormes. D'accord. Si la répartition était égale aussi égale, nous allons trouver que le bras court du gouvernement sera un peu allongé. Si par exemple le président, vous voyez le train de vie du gouvernement, même le président, c'est Messieurs Maïba, c'est Messieurs Clagé, a coûté à des centaines de millions là. S'il pourrait diminuer un peu sa classe, au moins le bras pourrait s'allonger un peu. Venant plus la place de Bella Bello, vous voyez, au Togo, le gouvernement n'a pas volonté, on ne fait que le contraire de ce qu'ils disent. Vous voyez, ceux qui ont lutté pour l'indépendance, au moment où nos aïeux, nos parents luttaient pour l'indépendance de ce pays, ceux qui étaient avec les Blancs, les Européens, les Français, ils matent nos aïeux, c'est eux qui sont magnifiés aujourd'hui, dont le Togo vit comme ça. Et puis ma proposition pour les élections, si nous transformons le Togo, la question va à Sam Djabo, si nous transformons le Togo en circonscription électorale, chaque fois on nous dit que le Togo est indivisible, que celui qui est du nord est du sud, que le Togo c'est un. Pourquoi ne pas transformer tout le Togo en circonscription électorale et en fonction du nombre de voix que les partis ont réparti je ne sais pas si vous comprenez. En fonction du nombre de voix que vous avez sur le Togo, en fonction de ça, vous avez le nombre de députés. Et puis, je voulais aussi poser la question à Mme Ambrosine. Ce n'est pas aujourd'hui que les partis politiques parlent du découpage des fichiers. À chaque élection, les observateurs en parlent. L'année même, les dernières élections, la NC en avait parlé. Parce que le pouvoir n'a pas la volonté de faire les bonnes choses. Il a toujours la volonté de tricher. Ma question, c'est ça, pour Sam Djabo.
Oui.
Allô?
Oui, allez-y, éterminé.
Non, c'est ça, je ne suis même pas, parce que je ne suis pas mandaté ou bien téléguidé par un parti politique ou bien par le gouvernement. Parce que les partis politiques ne peuvent pas m'attacher.
Personne n'a pensé ça.
Le gouvernement ne peut même pas me payer parce que ma conviction est trop grande. Quand je vous avais toujours dit, il peut même amener le gouvernement dans ma maison, moi je l'ai voté en ordre dans ma maison, je
l'ai voté. C'est votre option.
Parce que l'ADN est sans de ce gouvernement.
Merci Didier. Sinon, la question est adressée à Sam Djabo, mais j'estime quand même que l'idée que tout le Togo soit érigé en circonscription électorale, c'est pas à Sam Djabo, mais aux journalistes, mais c'est aux acteurs politiques, dont peut-être le CPC qui va se réunir incessamment. Un autre auditeur en ligne, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Pelé.
Oui, Pelé.
Est-ce que vous saluez le plateau?
Nous vous saluons en route.
Oui, c'est forcément les élections.
Oui.
Est-ce que les élections, c'est un peu plus. Donc, on a commencé par une discussion. On parle du fichier électoral. Et comme c'est Philippe, donc tout le monde va jouer le football.
Pelé, nous ne vous recevons pas en qualité pour bien comprendre vos
réponses.
Oui, nous ne vous recevons pas en bonne qualité.
Oh bon? Ça va, non?
Ok, allez-y voir.
Donc, je dis, hein, le système électoral est comme le stade sur lequel tout le monde doit jouer le football. L'IF n'a pas invité à aller jouer sur le terrain. Il n'est pas allé, il n'est pas bien placé pour aller bénéficier de l'effet de vous. C'est le question, les partis politiques qui sont habilités à aller à cette direction. Et aussi, tu dois chercher à voir comment, dans le fichier, ce qui s'est passé, Benny l'a dit. Quand il y a eu Benny, il est dans le fichier maintenant, il est parti pour tout le parti s'en là. Tout le fichier va aller dans le fichier de terrain, il va aller dans le fichier de terrain. Donc pourquoi on cache le fichier de terrain?
Merci. L'ami Pelé, le CPC devrait se réunir incessamment. Il revient aux acteurs politiques de poser le problème du fichier électoral à cette instance-là. Je crois savoir, hier, l'acteur politique Edem Atanti, au nom de l'ANC, a vivement annoncé la volonté ou bien le souhait de l'ANC de rencontrer le chef de l'État, comme ça a été fait au Bénin. Eh bien, nous verrons ce qu'il en sera dans l'un ou dans l'autre cas. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui.
C'est Armand.
Allez-y, Armand.
Bonjour, le plateau. Et moi, je tenais vraiment à saluer cette volonté que le gouvernement, à sa tête, le chef de l'État, ont vraiment la transparence, l'apaisement du scrutin à venir. Parce que on a vu, en ce qui concerne le communiqué sanctionnant le Conseil des ministres, rapidement le gouvernement a pris en compte le relevé des propositions que le CPC avait envoyées. C'est vrai que, comme vous venez de le dire, le CPC devait tenir une réunion qui a été reportée. Donc, on attend vivement de voir. Mm-hmm. Parce qu'il est vraiment important qu'on puisse arriver à un point où le peuple togolais puisse organiser des élections. Mm-hmm. C'est vrai qu'on l'a déjà fait, très apaisé, et surtout qu'il n'y ait pas de contestation intempestive. Merci. Parce que vraiment, ça met un peu, ça dégrade l'image de notre démocratie.
Merci beaucoup, Armand. Notre auditeur en ligne. Oui, bonjour.
Bonjour, Ben de Thévier.
Ben de Thévier.
Ouais.
Ok, allez-y, Ben.
Bonjour, tout le plateau.
Oui.
Oui, et s'il vous plaît, monsieur Sass.
Oui.
Il faut que nous l'interpellons, nous les citoyens togolais, nous interpellons le colonel. Le ministre de l'administration territoriale.
Oui.
Il n'a qu'à bien gérer le système électoral. Il n'a qu'à bien gérer ça. Parce qu'on sait que la continuité d'État, il y a la continuité d'État. Mais pour le problème de politique, chez vous, Togo aussi, il n'a qu'à laisser tout ce que l'ancien ministre avait fait là, il n'a qu'à laisser ça. Et prenez le grand d'accord à lui-même pour honorer le chef de l'État au cours de les élections. Parce qu'on trouve au Togo aussi. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Et de ce sujet-là, vous n'êtes pas débattu ce matin, mais je l'interpelle, monsieur le ministre Bawara.
Oui.
Aidez-nous pour que nous, les fonctionnaires d'État là, les indemnités de départ à la retraite, il n'a qu'à revoir ça pardon.
Ok, indemnité de départ à la retraite.
À la retraite, c'est trois mois, c'est trop.
Merci l'ami.
Ok, merci.
Merci. Alors, pour ce qui est du fichier électoral, je rappelle que c'est la prérogative première de la CENI. Hein, la CENI propose et puis le gouvernement valide. L'auditeur suivant, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui.
C'est Bozambo.
Bozambo, nous vous écoutons.
Ok, bonjour le plateau.
Bonjour.
Moi, je crois que... est-ce que CPC, ils sont en train de faire là, si ils ont élargi pour que tous les opposants rentrent dedans, ça va servir les peuples togolais.
Mm-hmm.
D'autres personnes sont là. On a voté la fois passée. Le deuxième qu'on a donné, 19, quelque chose. Il n'y a pas au moins une seule personne parmi eux dans la CPC. Donc je me demande, donc comment on conduit les Togolais d'aller? Donc, si on a poussé des élections, de faire quelque chose, de travailler dans la maison, avec harmonie, recenser les gens, et faire revision de liste, enlever les gens qui sont décédés, les gens qui sont plus de 18 ans, ils ont fait tout ça là, avant de programmer les élections. Si on n'a pas fait des élections dans 3 mois, est-ce que le Togo va disparaître sur l'étendue du territoire du monde? Non. Donc, il faut que les autorités et les CPC, ils ont en train de, ils ne veulent pas ouvrir une lager et les autres rentrent. Ils disent que demain, ils vont aller. Aujourd'hui, ils ont boycotté. Donc, demain, ils n'ont qu'à penser au peuple. Okay. Ils n'ont pas pensé à eux-mêmes. Ils n'ont qu'à penser au peuple. Que le peuple veut qu'on doit faire les choses en transparent. Eux-mêmes, ils disent qu'il n'y aura pas la violence. Ce qu'ils sont en train de préparer, il me semble qu'ils sont en train de préparer la violence contre nous, les peuples. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'ont pas recensé. C'est une violence contre nous, les peuples.
Gardons-nous de faire des procès d'intention aux uns et aux autres. Je rappelle juste que c'est le CPC, en sa séance du 13 décembre, qui avait souhaité son inclusivité, son élargissement. Je rappelle qu'en d'autres temps, certains acteurs politiques cooptés ou bien invités au CPC avaient décliné. Est-ce que ceux-là vont revenir? Nous attendrons la prochaine session du CPC pour avoir des éléments palpables à vous communiquer. Dernier auditeur aujourd'hui, bonjour.
Oui. Je pense que tout à l'heure, vous avez parlé que si le chef de l'État doit raconter, si il rencontre le chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, on sait qu'à la commune, le chef de file de l'opposition, c'est lui qui se retire. On ne sait pas si il est sur le terrain ou pas. Mais le chef de file de l'opposition, à chaque élection, la dernière élection, c'est donné. Si le docteur a dit ça, il fait une place en Algérie, et puis le chef de l'État veut raconter les gens, il faut qu'on tient compte de la légitimité des élections passées ici. Merci.
Je vous en prie, le chef de file de l'opposition, légalement pour aujourd'hui, c'est Grigis Olympio, le président de l'UFC. Où est-ce qu'il se trouve? Je ne saurais le dire. Mais je rappelle que dans une émission radio, M. Edem Atanti, au nom de l'ANC, a exprimé la disponibilité de l'ANC de rencontrer le chef de l'État. Ce que cela va donner, on va voir. Maintenant, pour les autres questions, disons seulement que il faut se réjouir que les Togolais s'intéressent à leur vie de tous les jours. Sam Diabo.
Non, moi je pense que si le chef de l'État doit rencontrer des formations politiques, je crois qu'il faut que déjà l'opposition même elle-même s'entende pour constituer une délégation qui va aller rencontrer le chef de l'État. Parce que l'ANC seul, qu'on oublie ce qui s'est passé avant. Maintenant, l'ANC, quand on décline la configuration, l'ANC ne représente plus grand-chose. Au niveau de l'Assemblée, l'ANC n'a pas de député. Lors des élections de 2020, on connaît le résultat de l'ANC. Et donc, il faut que l'opposition même s'entende et qu'elle fasse une délégation pour rencontrer le chef de l'État et discuter des questions essentielles avant que le scrutin ne se tienne. Maintenant,
Est-ce que tu dirais peut-être que cela relève des prérogatives du chef de file de l'opposition d'organiser
les l'opposition
partis autour de lui pour s'entendre sur des préoccupations à soulever devant le chef de l'État.
C'est important. Encore faut-il voir le chef de file de l'opposition. Mm-hmm. Maintenant, en ce qui concerne le découpage électoral, on se rappelle que lors des élections locales, au moins les acteurs politiques s'étaient entendus sur le découpage en termes de circonscription, en termes de communes, et on avait au total 117. Et aujourd'hui, je crois que 117, si on arrive à 117 députés, ça grève le budget de l'État. Ça fait énormément.
26 députés en plus.
En plus, ça fait énormément de dépenses à l'État, mais je pense que la paix sociale et la cohésion nationale n'ont pas de prix. Et si on peut, les acteurs politiques peuvent au moins prendre les 100 députés en entendant, les 117 députés en entendant qu'une autre solution soit trouvée au découpage électoral, moi je pense que c'est
une très bonne chose. Encore que, comme tu l'as déjà relevé, Isidore Akolo, toutes les communes n'ont pas la même taille, ni en superficie, ni surtout en population.
Mmh. Surtout en population, parce que n'oublions pas quelque chose. Quand on parle d'élections législatives, c'est les représentants du peuple. Le Sénat, c'est les régions. Donc, quand on parle des députés, il faut que tous les députés aient le même poids. C'est ça qui est important. On peut prendre la population, On dit qu'on veut 40 députés et on divise le nombre de la population par 40 et on voit le coefficient.
Mais c'est à ce niveau que l'idée de Didier pourrait être étudiée.
Mais c'est ça.
Transformer tout le pays en circonscription électorale
et on verra le poids
de chacun.
C'est ça même la justice.
La proportionnelle intégrale.
C'est ça. Mais à défaut, bon, on peut y aller. Mais ce sont des palliatifs. Ça ne résout pas le problème.
Oui.
Et moi, j'ai l'impression aujourd'hui que le CPC, c'est ça, non?
Oui.
Fait ombrage à la CENI. La CENI attend la décision du CPC pour ses équités.
Non, le CPC, non. C'est purement politique. C'est politique. Plutôt pour marcher le travail et déblayer le terrain.
Allez vérifier l'information que je vous donne.
Mais ça passe pas le gouvernement, non, toujours.
Mais, pour beaucoup de... Moi, je suis allé maintes fois à la CENI.
Oui.
Pour certains problèmes. On dit qu'on attend la décision du CPC. Et c'est en cela que je vous dis qu'aujourd'hui, j'ai l'impression... Je peux me tromper, mais j'ai l'impression, et vous pouvez aussi vérifier, le CPC, c'est les décisions du CPC qui sont entérinées par le gouvernement et qu'on envoie à la CENI. Et si tel est le cas, donc la CENI n'est plus indépendante. Même le chronogramme. La CENI, aujourd'hui, si nous sommes dans cette logique, la CENI ne peut pas faire un chronogramme. Donc, la CENI n'est qu'aujourd'hui un outil de propagande.
Ok, nous souhaitons que les élections soient bien organisées dans toute la transparence. Et si les acteurs politiques s'entendent en amont, je pense plutôt que le travail sera beaucoup plus allégé à la CENI, qui devra se retrouver dans un rôle d'organe technique. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois la chose. Mais Ambroisie, ce qu'il faut retenir, peut-être ce dont il faut se réjouir, c'est que, aussi bien au niveau du gouvernement que des acteurs de politique de l'opposition, on retrouve les vertus des rencontres, du dialogue, de la concertation, surtout quand on veut que le CPC soit plus élargi, plus inclusif.
Oui, on ne souhaite que ça.
Un peu de volume.
On ne souhaite que ça, et même savoir que la DMP qui n'y a pas participé a également fait des propositions. Mm-hmm. Je pense que nous sommes sur la bonne voie et que tout ça se passe bien, que la volonté de bien faire se ressente dans les actions que l'on fait.
Oui.
Je pense que c'est ça qui va nous permettre d'avancer.
Merci. La DMP qui ne participe pas à ce jour au CPC, peut-être qu'elle ira demain. Mais la DMP qui souhaite, entre autres, le retour au pays des exilés, la libération des prisonniers politiques, militaires et toujours dans le sens d'un apaisement sociopolitique. Eric, pour terminer.
Oui, d'abord, je voudrais dire, par rapport à la rencontre du chef de l'État avec les acteurs politiques, sinon l'opposition, je pense que si l'ANC veut rencontrer le chef de l'État, c'est que l'ANC a son calendrier et c'est de droit que chaque parti politique rencontre le chef de l'État pour échanger sur les problèmes du pays. Maintenant, si on veut faire ça dans un cadre formel, là, on peut voir au niveau du chef de file de l'opposition qui doit organiser toute l'opposition pour aller rencontrer le chef de l'État. Maintenant,
pour terminer,
en ce qui concerne la CENI, comme disait Isidore tout à l'heure, non. La CENI ne peut pas attendre le CPC pour avancer. Déjà, dans le communiqué du Conseil des ministres hier, on a dit que la CENI a fait une proposition de chronogramme qui sera étudiée par le gouvernement. Ça veut dire que la CENI n'a pas attendu le CPC pour faire son calendrier électoral. Et de l'autre côté, les décisions qui sont prises au niveau du CPC, ce ne sont pas des décisions, mais ce sont des propositions que le gouvernement doit étudier et maintenant formaliser. Parce que là, on ne peut pas dire que le CPC va faire injonction à la CENI. Je ne crois pas que ce soit forcément
merci,
ça.
Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Il est 12h26. Nous nous retrouvons demain mercredi à 11h si Dieu le veut et prions que Dieu le veuille.
Pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.